On se penche à présent sur l'info au Canada, en Belgique, en Suisse et en France. Il est effectivement 6h06 sur Inter. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'actualité francophone. Au sommaire cette semaine, des dizaines de milliers de personnes évacuées de leur ville en flammes. Fort McMurray, capitale canadienne du pétrole, n'est plus qu'un gigantesque brasier, incendie déclenché par un feu de forêt. En France, c'est le nucléaire qui est au cœur du débat avec les déboires d'Areva, accusé d'avoir falsifié les tests de contrôle de certaines pièces fabriquées dans son usine, des pièces destinées à l'industrie nucléaire. Une petite commune riche d'Argovie en Suisse préfère payer plutôt que d'accueillir des réfugiés, décision de la population par référendum. Et puis en Belgique, une grève dans les prisons depuis le 25 avril, les avocats des détenus se retournent contre l'État pour que soit assuré un service minimum. Au Canada, tous les regards sont tournés vers les immenses feux de forêt dans la province de l'Alberta. Les flammes n'ont pas fait de blessés, mais elles ont forcé l'évacuation de dizaines de milliers de personnes. Raphaël Bouvier-Auclair, une évacuation si importante à cause d'un feu, c'est une première en Alberta.
Si toute la population de la ville de Fort McMurray, la capitale de l'exploitation pétrolière en Alberta, dans l'ouest du Canada, qui a été évacuée, plus de 80 000 personnes ont dû quitter leur maison à vitesse pendant que les flammes se rapprochaient dangereusement de la ville. Des centaines d'édifices ont été endommagés par le brasier. Certaines images nous sont parvenues de quartiers où il ne reste pratiquement plus rien. Je vous invite à écouter des témoignages de gens qui ont quitté Fort McMurray et qui nous décrivent ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu.
Je crois que maintenant, je sais quoi ce que ça avait l'air l'enfer à cause que j'avais du feu les deux côtés.
Le feu et la chaleur, c'est intense. J'ai jamais vu ça, mais vécu une expérience de même.
Témoignage d'habitants de Fort McMurray et aussi bien au niveau provincial que fédéral, des moyens énormes ont été mis en œuvre pour secourir ces victimes.
Il y a déjà des centaines de pompiers sur le terrain. Le gouvernement du Canada a également déployé des hélicoptères de l'armée pour permettre le déplacement de matériel et de personnel. Les gouvernements de l'Alberta et du Canada ont annoncé qu'ils allaient doubler les montants de dons individuels de charité qui sont faits à la Croix-Rouge canadienne, le tout pour aider les dizaines de milliers de personnes qui sont évacuées.
On imagine évidemment qu'une telle catastrophe aura des répercussions économiques.
Il est difficile pour le moment de prédire quelles seront les conséquences négatives. Il y a bien sûr les coûts de reconstruction, mais il faut aussi dire que Fort McMurray, c'est la capitale de l'exploitation des sables bitumineux, la capitale de l'exploitation pétrolière au Canada. Plusieurs entreprises sont situées dans cette région et certaines ont cessé leurs activités. C'est donc une situation très difficile pour une région qui devait déjà composer avec les contre-coups de la chute des prix du pétrole.
En France, nouveau déboire pour Areva, le géant du nucléaire. La firme a dû avouer à l'autorité de sûreté nucléaire qu'on avait découvert des anomalies dans le suivi de fabrication des composants de réacteurs nucléaires élaborés dans son usine du Creusot, en Saône-et-Loire, Annette Ardisson.
Tout est parti d'un défaut constaté dans la cuve du réacteur EPR en construction à Flamanville en Normandie. EPR, ce sont les initiales en anglais de réacteur pressurisé européen. Des fissures apparaissent sur cet équipement de 550 tonnes. Un audit est mené sur le site de fabrication. Dans les dossiers, on découvre des incohérences concernant les paramètres de fabrication ou les essais effectués sur 400 pièces produites au Creusot depuis 1965. Une cinquantaine seraient encore en service.
Est-ce que c'est dangereux ?
On ne sait pas encore. Les pièces sont conformes, ce sont les documents qui ont été mal faits, affirme la ministre de l'Environnement. N'empêche, les dirigeants d'Areva n'excluent pas une falsification de documents. Il faut dire que l'usine a eu plusieurs propriétaires avant d'être rachetée par Areva en 2006.
En quoi est-ce grave pour le géant du nucléaire ?
Bien, tout simplement parce qu'Areva est au bord de la faillite. Entre la baisse du prix de l'énergie et les retards dans la livraison des EPR en France, mais aussi à l'étranger, la firme a besoin d'être recapitalisée. L'État a promis 3 milliards d'euros et EDF doit reprendre la branche réacteur pour 3 milliards également. Mais selon l'économiste Élie Cohen, ce nouvel incident pourrait tout remettre en cause.
EDF s'est un peu fait forcer la main par le gouvernement pour reprendre Areva et la justification, c'était de dire au moins qu'ils sécurisaient leurs approvisionnements et qu'ils allaient pouvoir continuer à superviser l'évolution d'un Areva dans le cadre de la poursuite éventuelle du projet EPR en France et dans le monde. Mais là, pour EDF, il y a une rupture de contrat de confiance et il y a la nécessité de repenser totalement les termes de cette acquisition.
On sera fixé dans 15 jours sur la réalité des anomalies constatées dans les dossiers.
En Suisse, Laurent Caspary, une petite commune du canton d'Argovie, a voté dimanche dernier pour ou contre l'accueil de 9 réfugiés.
C'est la loi dans le canton d'Argovie, situé près de la capitale économique du pays, Zurich. Une commune a le droit de refuser d'accueillir des réfugiés qui lui sont attribués moyennant finances. La riche commune d'Auberville-Lilly, 2000 habitants, fait usage de ce droit depuis quelques années et préfère payer annuellement près de 300 000 francs suisses au lieu d'accueillir 9 réfugiés, soit 250 000 euros. Mais des citoyens ont récemment contesté la méthode et la question est arrivée devant le peuple qui a donc dû se prononcer dans la plus pure tradition démocratique.
Et le résultat, après une campagne assez vive, a finalement été très serré.
54 voix d'écart sur plus de 1100 votants avec une victoire pour les tenants de la solution financière. Auberville-Lilly devra donc continuer à payer au lieu d'accueillir des réfugiés. Mais au-delà de l'aspect local, ce vote a une répercussion nationale. Même si la Suisse est pour l'instant largement épargnée par la crise migratoire européenne, cantons, communes, confédérations et citoyens sont très sensibles à cette question. Le 5 juin prochain, le pays entier doit dire s'il accepte une nouvelle mouture de la loi sur l'asile soutenue par tous les partis, à l'exception de l'UDC.
En Belgique, Nathalie De Vic, c'est la colère des gardiens de prison qui est au cœur de l'actualité.
Près de 2 semaines de grève des agents pénitentiaires, résultat des détenus cloîtrés dans leurs cellules, sans pouvoir s'aérer dans la cour, ni prendre de douche, ni même recevoir de visite. Une situation difficile qui a donné lieu à plusieurs incidents dans divers établissements, dégradations, saccages, incendies. Cette semaine, les avocats de plusieurs détenus ont obtenu gain de cause en justice. L'État a été condamné à leur payer des astreintes journalières. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'État belge est condamné pour mauvais traitement dans ses prisons. La police a dû être réquisitionnée pour remplacer les gardiens. Une police elle-même à court d'effectifs dans ce contexte d'alerte sécuritaire toujours élevé suite aux attentats. On a même été jusqu'à appeler en renfort la police de la route. Le dernier maillon possible.
Alors, quelles sont les causes, Nathalie, de ce mouvement de grève ?
Ce sont les mesures proposées par le ministre de la Justice pour réformer la profession de gardien de prison, notamment le relèvement de l'âge de la pension, malgré la pénibilité du métier, mais aussi la rationalisation du personnel, déjà insuffisant aujourd'hui, comme l'explique Marc Dizier, président de l'Association des directeurs des prisons francophones.
Depuis 18 mois, il y a une décision qui a été prise au plus haut niveau de réduire les capacités de personnel de 10%. Nous travaillons déjà tous les jours en sous-capacité de 10 à 15%. Donc ça veut dire que si on nous retire encore du personnel, il deviendra strictement impossible de continuer à travailler.
Ainsi s'achève notre panorama de l'actualité de la semaine en Belgique, en Suisse, au Canada et en France. Rendez-vous sur le site www.lesmediafrancophones.org et à la semaine prochaine.